Direction cette semaine, la ville de New Bedford, aux États-Unis. Je vous propose de faire un saut dans le passé pour nous rendre 40 ans en arrière. Nous sommes alors dans la soirée du 6 mars 1983. Une jeune mère de famille de 21 ans, Cheryl Arauch, se rend compte qu'elle n'a plus de cigarettes. Et à cette heure-ci, la plupart des commerces sont fermés. Mais par chance, un bar, le Big Dan, situé à quelques rues de chez elle, est encore ouvert et il dispose d'un distributeur automatique de cigarettes. Mais ce dont Cheryl ne se doute pas, c'est que ce malheureux paquet de cigarettes va littéralement bouleverser sa vie. En plus de vivre un moment d'une rare violence, le procès qui va suivre deviendra une véritable attraction. Elle sera jetée en pâture à la face du monde, souillée une fois de plus. Et parfois, et de manière incroyablement injuste, il arrive que le destin s'acharne. Et ce sera le cas pour Cheryl, puisqu'elle mourra seulement 4 ans plus tard. Découvrez aujourd'hui la triste histoire de Cheryl Ann Arauch. La journée du dimanche 6 mars 1983 n'a pas été de tout repos pour Cheryl, une jeune américaine de tout juste 21 ans d'origine portugaise, alors mère de 2 petites filles. Ce jour-là, c'est le 3e anniversaire de son aîné. Et Cheryl est du genre mère poule. Elle a savamment préparé l'événement, choisi avec soin les cadeaux, préparé un beau gâteau, la décoration était pensée dans les moindres détails, et l'anniversaire qui s'était déroulé dans l'après-midi s'était passé à merveille, entre amis et en famille, dans la joie et dans la bonne humeur. Ce qui nous amène à un peu plus tard, ce jour-là, dans la soirée, une soirée fatidique qui va littéralement changer la vie de Cheryl. Après l'anniversaire, Cheryl prépare le dîner pour son compagnon, qui n'est autre que le père de ses enfants. Elle met ses filles au lit et, laissant son compagnon devant un match de football, elle s'en va rejoindre une amie, Lisetta qui était d'ailleurs présente un peu plus tôt ce jour-là, à l'anniversaire, et avec qui elle avait prévu de dîner. Donc les deux amies dînent ensemble et après le dîner, elles se séparent. Mais voilà que sur le chemin du retour, Cheryl se rend compte qu'elle n'a plus de cigarettes. Mais comme la soirée est déjà bien entamée, le commerce où elle a l'habitude d'en acheter est fermé depuis longtemps, qu'à cela ne tienne. Le Big Dan, un bar situé à 2 pas de chez elle, possède un distributeur automatique de cigarettes. Et le Big Dan, c'est le genre de taverne où ça sent très fort la testostérone. Ce n'est pas un endroit qu'elle a l'habitude de fréquenter, mais elle ne se pose aucune question, après tout, elle n'en a que pour 2 minutes. Elle passe le pas de la porte, prend ses cigarettes et, aux surprises, parmi les clients, il y a une amie à elle, une certaine Marie Correa. Les deux se font la bise et ne peuvent s'empêcher de papoter un peu. « Et toi, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais ?» Alors tant qu'à faire, et même si elle n'est là que pour un court instant, d'autant plus que Marie est elle-même sur le point de partir, Cheryl en profite pour commander un verre. Elle en profite également pour glisser une pièce dans le jukebox pour bavarder avec son amie en écoutant de la musique. Les deux sont plongés dans leur discussion et une poignée de minutes plus tard, comme convenu, et comme elle a terminé son verre, sa copine lui dit qu'elle doit partir. Et d'ailleurs, je précise que j'ai lu des sources qui indiquent que cette amie était barmaid dans l'établissement et qu'elle venait alors de terminer son service. L'un dans l'autre, le résultat est le même. Comme les deux prennent des directions différentes pour rentrer, elles se disent au revoir. Cheryl est elle aussi sur le point de partir. Elle prend simplement une petite minute, le temps de terminer son verre, et remarquez que depuis son entrée dans l'établissement, elle n'a eu de contact avec aucun autre client. Mais ce qu'elle n'a pas remarqué, le peu de temps où elle est restée, ce sont les regards insistants de certains clients qui, eux, l'ont parfaitement remarqué. Et il faut le dire, la jeune Cheryl est une très jolie femme et elle a tout de suite tapé dans l'œil de l'assemblée. Et la naïve Cheryl ne s'est méfiée de rien. Et hop, après quelques goulets, son verre est vide, elle saisit alors son sac puis se dirige vers la porte. Mais elle n'a pas remarqué une autre chose encore. C'est que, aussitôt son amie partie, l'un des clients a discrètement verrouillé la porte d'entrée. Il a simplement fermé le loquet. Mais de toute façon, la pauvre n'a même pas le temps de passer le pas de la porte que deux clients, Joseph Vieira, âgé de 28 ans, et Daniel Silva, âgé de 27 ans, l'accostent. Ils lui proposent de terminer la soirée ensemble chez l'un d'eux. Merci, mais non merci, Cheryl n'a qu'une seule idée en tête, rentrer chez elle. Mais elle n'a même pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre que les deux la tirent violemment en arrière. La surprise est totale pour elle, elle s'attendait à tout sauf à ça. Après tout, il doit y avoir une quinzaine de clients présents dans l'établissement, alors se faire attaquer comme ça, à la vue de tous, avouez que c'est impensable. Ce n'est pas comme si elle était toute seule dans une ruelle déserte. Alors elle se met à crier, mais à peine a-t-elle eu le temps de réaliser ce qui lui arrive que la pauvre n'a déjà plus aucun vêtement en dessous de la ceinture. Joseph et Daniel, tels des animaux enragés et en rute, lui ont arraché ses vêtements en une fraction de seconde. Il n'y a dès lors plus aucun doute quant à leurs intentions. Cheryl se débat, elle crie à l'aide, mais personne ne bouge. Et à vrai dire, la scène s'est passée si vite que la plupart des clients peinent à réaliser les choses. Une chose est sûre, aucun ne lui vient en aide. Enfin, aucun sauf un, puisque l'un d'entre eux va bouger. Il va profiter de l'occasion pour saisir Cheryl par derrière et il l'entraîne ensuite dans le fond de la salle et la jette violemment sur la table de billard. Et ce client, ce qu'il veut, c'est passer en premier. Et on ne sait pas si ces personnes ont comploté ou si en un regard ils se sont compris. Tout ça, ça reste encore à ce jour un mystère. Alors imaginez la surprise et le choc pour Cheryl. Imaginez que vous sortez tranquillement d'un bar tabac, par exemple, et que ni une ni deux, vous vous retrouvez à moitié déshabillé et plaqué sur une table de billard. Alors je pense que Cheryl a dû se dire qu'au moins un client allait intervenir, mais non. Pour toute réponse, des rires commencent à se faire entendre, puisque la scène a l'air d'amuser l'assemblée. Et donc alors qu'elle est immobilisée par Joseph et Daniel, le troisième commence à abuser d'elle. C'est un certain John Cordero, qui est lui aussi âgé d'une trentaine d'années. Mais en réalité, tous ne sont pas ravis, loin de là, à commencer par le barman. Un certain Carlos Machado, qui, en voyant la tournure des événements, s'est immédiatement dirigé vers le téléphone pour appeler la police. Mais un client, Virgilio Medeiros, va faire barrage. Oh que non! Il ne fera rien, il ne va quand même pas gâcher le spectacle. Et ce Virgilio a un air menaçant, suffisamment menaçant pour que le barman abandonne son projet de sauvetage. Cheryl est alors une première fois abusée, mais ce n'est là que le début de son calvaire, puisqu'ils sont plusieurs à faire la queue. Une occasion pareille, pour ces ivrognes sans morale, on ne peut pas passer à côté. Alors c'est au tour de Joseph maintenant. Souvenez-vous, c'est l'un des deux qui lui avait proposé de passer la soirée ailleurs. Mais un client, trouvant la scène insupportable, se rue à son tour vers le téléphone. Il faut sauver cette pauvre femme, mais il est rapidement entouré par deux autres clients menaçants. Alors tous ne veulent pas s'en prendre à Cheryl, mais ils veulent quand même se délecter du spectacle. Alors l'accès au téléphone sera dès lors protégé. Le client ne peut rien faire et il est seul contre tous et à l'image du barman, il va lui aussi abandonner l'idée de sauver Cheryl. Et dites-vous, et je préfère vous le dire maintenant, que pour que vous ayez une meilleure idée des choses, ce cauchemar va durer 2 heures. 2 longues heures pendant lesquelles, bien qu'épuisée, Cheryl n'aura de cesse de hurler, de pleurer, d'essayer de se dégager, le tout sous les acclamations, rires et applaudissements de certains clients. Certains vont même lever leur verre à la gloire des bourreaux. On pouvait entendre des choses du genre « Allez, vas-y, vas-y !» Et quand Joseph a enfin terminé son affaire, c'est au tour de Daniel de s'attaquer à Cheryl. C'est l'horreur pour elle. Elle se débat comme une lionne, mais ses bras et ses jambes sont tenus. Elle n'a que sa voix pour se défendre, voix qui est recouverte par les cris d'encouragement des bêtes enragées qui l'encerclent. Et entre chaque assaut, elle est humiliée, elle est moquée, puisque les bêtes font durer le plaisir. Puis c'est au tour d'un quatrième client de s'attaquer à elle, un certain Victor Raposo. Imaginez un peu, l'un après l'autre, ils sont quatre à s'être attaqués à elle. Le tout entrecoupé d'humiliation. Et après deux longues heures, la courageuse Cheryl parvient enfin à se dégager. Elle n'est alors vêtue que d'une seule chaussette et de son pull rose, complètement déchiré. Elle s'enfuit sous les rires ignobles de ses bourreaux. Elle déverrouille la porte, se précipite dehors et, amusée par la situation, telle de véritables prédateurs face à leur proie, dites-vous que certains des clients vont se lancer à sa poursuite. Voilà, ça les fait rire. Ils trouvent amusant de la chasser, de l'attraper pour, encore une fois, s'attaquer à elle. Et dehors, il fait nuit, les rues sont désertes, alors quoi de mieux comme terrain de chasse ? Cheryl, quant à elle, est en état de choc. Elle hurle et court le plus vite et le plus loin possible, n'ayant que ses mots à la bouche, que quelqu'un lui vienne en aide. Dites-vous qu'à ce moment, elle court pour sauver sa vie. Et par chance, elle va croiser un groupe de trois étudiants. Je ne connais que deux noms. Parmi ces trois étudiants, il y a les frères Dan et Michael O'Neill. Ils roulaient alors en voiture. Imaginez la scène, elle est à peine croyable. L'un d'eux, qui était affalé contre la vitre de la voiture en voyant Cheryl, va s'écrier qu'il faut immédiatement s'arrêter, qu'il y a une personne là devant eux qui a besoin d'aide. Ils diront qu'elle était terrorisée, qu'elle était comme un animal apeuré qui était pris dans les phares de leur voiture. Ils ne perdent pas un instant, ils arrêtent leur véhicule et se précipitent pour lui venir en aide. Et en les voyant, les clients qui avaient décidé de prendre en chasse Cheryl, eh bien ils vont fuir comme des lapins. Et oui, c'est comme ça, les bourreaux sont souvent des lâches. Et ses sauveurs vont la recueillir, ils vont la draper de leur veste et la conduire sans attendre à l'hôpital le plus proche. Cheryl est immédiatement prise en charge et une équipe de police est alors dépêchée sur place pour recueillir son témoignage. Et rappelez-vous, le contexte est important, nous sommes en 1983, alors ce dont ne se doute pas Cheryl, c'est que son calvaire est loin d'être terminé. Oh que non, il ne fait que commencer. Et il va commencer dès son interrogatoire par les policiers, puisque oui, ce qui est en principe un témoignage aura plus des airs d'interrogatoire. C'est comme ça, c'est l'époque qui veut ça, ce n'est pas pour rien qu'à l'époque, nombre de femmes préféraient se taire, ne rien dire à personne. Dans de pareilles circonstances, beaucoup préféraient reprendre leur vie comme si finalement rien ne s'était passé, de peur de ne pas être crues ou bien d'être jugées, d'être stigmatisé ou frappé du sceau de la honte. Mais Cheryl va expliquer du mieux qu'elle le peut ce qu'elle a vécu. Elle fera abstraction des questions du type « Mais que fait une femme seule la nuit dans un bar ? Est-ce que son verre ne contenait pas de l'alcool ? Et puis est-ce qu'elle est sûre de n'avoir bu qu'un seul verre ? Et sa tenue ? Comment elle était sa tenue ? Et puis est-ce qu'elle n'aurait pas jeté des regards, disons, ambigus aux autres clients ? Des regards qui auraient peut-être prêté à confusion ? Et chose importante, quand on lui demande combien d'hommes étaient présents dans le bar au moment des faits, alors vous pensez bien qu'elle ne les a pas comptés, elle dira une quinzaine, et on apprendra plus tard que non, ils étaient en réalité 10, Cheryl compris, auquel donc vous pouvez enlever le barman et le client qui ont essayé d'appeler la police, donc qui n'ont ni participé ni encouragé l'assaut, et auquel vous pouvez également retirer un homme qui était complètement ivre et qui dormait dans un coin tout du long. Et la défense se servira plus tard de cette erreur pour faire passer Cheryl pour une menteuse. Elle aura beau expliquer qu'elle était dans un état de détresse tel qu'il lui était impossible de les compter. Elle n'avait d'ailleurs pas fait attention à eux quand elle discutait avec son amie. Elle s'était souvenue d'une foule, voilà, simplement d'une foule. Alors oui, elle s'est trompée, mais elle expliquera toujours que du début à la fin, elle était de bonne foi. Et cette affaire est si choquante, presque irréelle, qu'elle fera dès le lendemain la une des journaux du pays tout entier. Il sera donc relayé dans un premier temps, à tort, qu'il y avait une quinzaine de personnes, que tous l'applaudissaient, voilà, qu'il y avait presque des holà dans le bar, et ce n'est que 3 semaines plus tard que les journalistes corrigeront leur erreur. Mais par chance, et comme il est d'usage à l'époque de le faire, et pour protéger les victimes, sachez que l'identité de Cheryl sera protégée, elle ne sera pas révélée, du moins pour le moment. Et forcément, la population est horrifiée par cette histoire. Une chasse aux sorcières va alors commencer. Tous veulent la tête des bourreaux, qu'ils soient punis et vite, que ce soit les locaux ou plus largement les Américains, aux quatre coins du pays. L'enquête des policiers est alors scrutée, chaque nouvel élément est massivement relayé et bientôt, les noms et visages des bourreaux seront dévoilés. Ce sont 6 hommes qui seront arrêtés. Les autres n'interviendront qu'en qualité de témoins. 4 hommes seront arrêtés pour bip, aggravé. Alors je suis désolée de ne pas utiliser les mots, mais j'ai l'espoir, sait-on jamais, un mince espoir de peut-être pouvoir rémunérer toutes ces heures que j'ai passées à préparer ce sujet. Donc je vais utiliser si possible d'autres mots, et si je ne peux pas, je préfère encore biper. Donc, 4 hommes et les 4 dont je vous parlais vont être inculpés de bip aggravé. Il y a Victor Raposo, il y a John Cordero, il y a Joseph Vieira et il y a Daniel Silva. Quant aux 2 autres, José Medeiros et Virgilio Medeiros, qui, précisons-le, n'ont aucun lien de parenté, ils seront, eux, arrêtés pour, je cite, « entreprise commune », ce qui veut dire qu'ils ont encouragé un acte illégal en plus de ne pas avoir agi pour l'arrêter. Ajoutez à cela que ce sont eux qu'on suspecte d'avoir empêché l'accès au téléphone. Et à ce moment, l'identité de Cheryl est toujours protégée. Et remarquez une chose, tous les protagonistes de cette affaire ont des noms à connotation latine. Or, il est de notoriété publique que la ville de New Belford est composée à 60% d'Américains d'origine portugaise. Alors certains vont en profiter pour faire des amalgames. Et plus largement, les problèmes liés aux non-Américains de souche. Dès lors, c'est toute la communauté portugaise qui n'a rien demandé à personne, donc toute la communauté portugaise, je précise, de la région, qui sera moquée et jugée par le reste du pays. Et à cause de ça, nombre de luso-américains, c'est-à-dire ayant des ancêtres d'origine portugaise, eh bien, ils en voudront farouchement à la victime. Et on ne sait pas encore à ce moment qu'il s'agit de Cheryl. Ils vont considérer qu'elle a indirectement jeté l'opprobre sur la communauté. Mais ils vont tout de même se défendre. Alors non, ils ne cautionnent pas le comportement des clients, mais ils disent avoir encore plus honte du comportement de cette femme. Certains vont même aller plus loin, puisqu'une cagnotte sera mise en place afin de libérer 4 des 6 accusés qui étaient alors enfermés sous caution dans l'attente de leur procès. C'était une sacrée somme à l'époque, 20 000 $, mais elle sera réunie et les accusés seront libérés dans l'attente de leur procès. Et pire encore, des manifestations face à l'ampleur qu'a pris cette affaire à travers le pays, face à la haine que va recevoir la communauté, eh bien des manifestations seront même organisées dans la région, notamment une qui réunira 16 000 personnes de la communauté, le but, réclamer la clémence pour les accusés. Et beaucoup sont de la vieille école. Que fait une femme tard le soir dans un bar? Elle est forcément coupable, ou du moins, elle l'a cherché. Le contexte est alors électrique et il est décidé que les 6 accusés seront jugés lors de 2 procès distincts. L'un pour les 4 accusés principaux et l'autre pour les 2 témoins/supporters. Ils auront lieu 1 an après les faits et nombre d'avocats carriéristes vont se précipiter pour défendre les différentes parties. Tout le monde veut en être. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait que ce sont les presses du pays tout entier qui vont couvrir ces procès. L'occasion parfaite pour asseoir sa réputation d'avocat ou pour faire décoller sa carrière. Alors les 4 accusés vont précieusement utiliser ce temps pour minutieusement préparer leur défense. Et avec, à leur côté, des avocats aux dents longues. De son côté, Cheryl, qui ne doit son salut qu'à la protection de son identité, est terrorisée. Elle se terre chez elle comme un rat, elle a tout à perdre. Sa réputation, son honneur, sa sécurité, alors elle se cache. Elle tente de se reconstruire comme elle le peut. Ils vont être nombreux à faire pression sur elle pour qu'elle l'abandonne, mais elle ne le fera pas. Et sachez que ce n'est pas la seule. Les témoins, eux aussi, vont se cacher. Tous, sans exception, recevront de sérieuses menaces. Ils seront montrés du doigt et menacés. On leur reprochera de vouloir aider une femme de petite vertu qui traîne dans les bars la nuit. Vous connaissez, j'imagine, la chanson. Ce sera le cas du barman, du fameux client, ainsi que des trois étudiants qui ont porté secours à Cheryl. La tension est alors à son comble. La date du jugement, en tout cas le plus important, est fixée aux alentours de mars 1984 et il durera tout un mois. Écoute théâtre. Alors que normalement ce genre de procès se passe à huis clos, la priorité étant encore une fois de protéger la victime, eh bien ce ne sera pas le cas dans cette affaire. En effet, à la surprise générale, le juge va autoriser la diffusion de ce procès en direct à la télévision, du jamais vu à l'époque pour ce type d'affaires. Les caméras seront donc autorisées à pénétrer jusque dans la salle d'audience, imaginez. Les journalistes pourront tout filmer, à l'exception de la victime. Et le juge a assuré à Cheryl, qui est forcément tombée de 10 étages en apprenant la nouvelle, que ni son identité, ni son visage, ni son témoignage ne seront diffusés. Et elle entrera par une porte dérobée au tribunal. À l'annonce de la nouvelle, les journalistes se frottent les mains. Imaginez un peu les retombées financières. Pour vous donner une idée, CNN, pour ne parler que de cette chaîne, CNN retransmettra le procès jusqu'à 3 heures par jour. Ils vont utiliser 3 heures d'antenne, ce qui est très long. Et ils feront d'ailleurs des records d'audience, puisque personne ne veut rater une miette de cette folle affaire. Mais il n'y a pas que les journalistes qui se frottent les mains. Non, non. Les avocats des accusés aussi, après tout. Le monde entier connaît déjà leur nom, ainsi que leur visage. Donc de ce côté-là, ils n'ont finalement rien à perdre. Mais ils voient là l'occasion idéale de déstabiliser les témoins, mais aussi et surtout de déstabiliser la victime. Et oui, ils comptent utiliser les mêmes arguments pour convaincre les jurés, soit les convaincre que la victime a invité ces messieurs, donc qu'elle était consentante, mais qu'elle n'aurait pas assumé derrière, soit que bon, elle n'était pas consentante, mais que finalement, elle mérite un peu ce qui lui est arrivé. Leur but, à tous, convaincre les jurés, certes, mais pas que. Ils savent qu'ils pourront aisément rallier une partie de la population américaine derrière eux. C'est là une aubaine. Et il faut savoir qu'à l'époque, la décision du juge d'autoriser la diffusion du procès à la télévision en avait malgré tout choqué plus d'un. C'était incompréhensible pour beaucoup. Le procureur était même monté au créneau. Selon lui, une telle publicité pourrait à l'avenir décourager d'autres victimes d'essayer d'obtenir justice. Et en plus de gravement porter atteinte au droit à la vie privée de la victime, ça pourrait avoir des conséquences tragiques et irréversibles sur sa santé mentale. Avec une telle couverture médiatique, on court, selon lui, à la catastrophe. Il y a des risques accrus, selon lui, et selon beaucoup d'ailleurs, que l'identité de la victime ne fuite et que, de ce fait, elle soit ostracisée par le reste de la population. Ça pourrait détruire sa vie. Et gardez à l'esprit, comme je vous l'ai dit en introduction, qu'à ce moment, il ne reste à Cheryl que 3 ans à vivre. Mais le juge va balayer ses arguments d'un revers de manche, arguant que, huis clos ou non, finalement, ça ne va pas changer grand-chose, puisque dans tous les cas, personne, non jamais personne, n'aura connaissance de son identité. Au contraire, les partisans et le juge vont expliquer que connaître le processus judiciaire ne pourrait qu'être bénéfique pour les Américains. Et devinez quoi ? Aussitôt le procès ouvert, l'identité de Cheryl, son visage et même son adresse vont fuiter dans la presse. Et même si on ne verra pas une seule image de Cheryl lors du procès, sa photo sera publiée partout. partout. Elle illustrait littéralement les articles ou bulletins d'information et même les plus grands médias, qui sont d'ordinaire sur la réserve quand il s'agit de protéger les victimes, eh bien, ils n'en auront rien à cirer. C'est la course au scoop. Et tous vont au minimum balancer son identité. Et en réalité, ils avaient légalement le droit de le faire, puisque pour les en empêcher, il aurait fallu qu'un juge statue au préalable là-dessus et qu'il interdise par décision de justice la divulgation de ces informations, ce qui aurait alors exposé les différents organes de presse à des sanctions. Mais non, les tribunaux n'ont rien statué du tout, laissant ainsi le champ libre aux journalistes. Mais sachez que les autorités se paieront plus tard le luxe de réprimander les méchants journalistes. Voilà une petite tape sur les doigts, les taxant d'irresponsables. Et ça, avouez que c'est la définition même de l'hôpital qui se fout de la charité. Et bien sûr, sans surprise, la pauvre Cheryl sera littéralement traînée dans la boue. Et d'ailleurs, elle n'aura d'autre choix, comme on le verra plus tard à l'issue du procès, que de fuir. Quitter sa vie comme une voleuse, elle qui était pourtant née et qui avait grandi à New Bedford. Donc elle sera calomniée, traitée de traînée, accusée de briser les vies des pauvres accusés qui ont simplement répondu à ses appels de phare de filles faciles. On pouvait lire tout et n'importe quoi à son sujet, comme par exemple qu'elle était au moment des faits en couple avec un énième amant de passage à qui elle avait osé confier la surveillance de ses filles pour aller se bourrer la gueule dans un bar. Or, cet homme, eh bien, c'était le père de ses filles et c'était même son amour de jeunesse qu'elle avait rencontré au lycée. Ce sera d'ailleurs le seul et unique homme de sa vie. Alors la gratuité de cette accusation. Des gens vont même manifester contre elle devant le tribunal. C'est une déflagration de haine qui va s'abattre sur elle, en sachant que son seul tort, c'est d'avoir été en réunion pour avoir simplement voulu acheter un paquet de cigarettes. Donc, place au procès, les amis. Il est important de savoir que chaque accusé est représenté par son propre avocat. Donc, lors du premier procès, d'ailleurs, je ne parlerai pas vraiment du deuxième, les deux vont se succéder rapidement, c'est vraiment le premier qui est important. Ça veut dire qu'il y aura 4 avocats lors de ce procès, donc pareil plus tard pour les deux autres. Donc, chacun de ces avocats aura la possibilité de contre-interroger Cheryl. Alors imaginez un peu. C'est au total, si on compte les deux procès, à 6 reprises qu'elle devra raconter son histoire, dans les moindres détails, et le tout retransmis à la télévision et devant une salle d'audience pleine à craquer. Et aussi et surtout, ces avocats, comme je vous le disais, ce sont des requins. C'est presque toute la profession qui s'est battue pour avoir l'opportunité de représenter les accusés. Et chacun va à sa façon essayer de tirer son épingle du jeu, le but étant de réussir à déstabiliser Cheryl, de la mettre en porte-à-faux, d'insinuer que peut-être qu'elle est légère, que peut-être qu'elle voulait tout ça, que peut-être qu'en traînant la nuit dans un bar, eh ben, elle l'avait finalement cherché, etc., etc. Alors imaginez à quel point c'est traumatisant et épuisant. Et tout ça sur les frêles épaules d'une jeune femme de 22 ans à ce moment. Ça briserait même les plus endurcis d'entre nous. Et ce n'est pas pour rien que ce procès, enfin les deux procès, seront considérés comme un épisode honteux pour les États-Unis, une tache noire indécrottable de l'histoire de l'Amérique. Imaginez jeter en pâture de la sorte une victime. Ronald Pina, le procureur du comté de Bristol, dira même « Rares sont les femmes qui pourraient à la fois endurer le traumatisme de ce qu'a vécu Cheryl et à la fois endurer le traumatisme d'un procès aussi médiatisé. » Et voici un petit florilège du contenu de ces contre-interrogatoires. L'un des avocats de la défense glissera entre deux arguments fallacieux en regardant Cheryl droit dans les yeux qu'elle a eu des relations consenties avec son client ce soir-là et que, je cite, « une chose en a entraîné une autre et que d'autres clients se sont joints à eux. » Alors, eux sont peut-être coupables, mais pas son client. Maître Harrington, l'avocat de Daniel Silva, qui, souvenez-vous, est l'un des deux à avoir saisi Cheryl avant de lui arracher ses vêtements, va à peu près dire la même chose, mais en pire. Il a expliqué au jury que c'est Cheryl qui s'est approchée de son client, qu'elle lui a parlé et qu'une envie soudaine de retirer son pantalon l'a alors saisi et qu'elle l'a tout simplement enlevé, sans que quiconque ne fasse quoi que ce soit, bien sûr. Et les deux seraient alors tombés par terre et son client l'aurait ensuite porté délicatement jusque sur la table de billard. Voilà, les deux voulaient simplement s'amuser un peu, mais que, je cite, « beaucoup d'hommes et contre leur volonté se seraient invités ». Voilà. Et pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Il va ajouter que son client voulait partir, mais que Cheryl l'en a empêché en l'entourant de ses bras. Et que c'est donc finalement lui la victime. Et que c'est Cheryl la prédatrice. Que tout était consenti, bien sûr, qu'il n'y a pas eu de cris, aucun pleur et encore moins de protestation. Voilà, Cheryl était tout simplement ravie de la tournure des événements. Et il lui demandera également le plus sérieusement du monde, si vous vivez avec un homme, alors qu'est-ce que vous faites à courir les rues pour vous faire bip ? Et là, je vous parle uniquement de Maître Harrington, mais dites-vous que les autres avocats, c'était pareil, et pire même. Vous savez, c'est souvent en cas de coup dur qu'on se rend compte de qui sont nos vrais amis. Voilà, il y a une sorte de sélection naturelle qui s'opère, et on ne voit parfois le vrai visage des gens qui nous entourent que lorsqu'on a un genou à terre. Eh bien, l'ami de Cheryl, souvenez-vous, Lisetta Robida, celle avec qui elle a dîné, eh bien, elle sera l'un d'eux. Elle va témoigner qu'elle était présente ce jour-là, l'anniversaire de la fille aînée de Cheryl, qu'après la fête, elles étaient parties dîner ensemble, et que Cheryl, après qu'elle l'ait raccompagnée chez elle, lui a demandé si elle voulait prendre un verre, ce à quoi elle lui aurait répondu que elle devrait plutôt rester chez elle. Ben oui, vous comprenez, Lisetta ne mange pas de ce pain-là. Hein. Amie, mais pas trop. Peut-être même que toute réflexion faite, sa copine était, disons, un peu borderline. C'est en réalité une façon pour Lisetta de se désolidariser de Cheryl, de ne pas être associée à elle. Elle est dans une telle tourmente. Et forcément, l'occasion est trop belle pour les avocats de la défense qui ne se priveront pas pour faire passer Cheryl pour une alcoolo de compétition. Ils n'hésiteront pas à dire qu'elle était ivre morte ce soir-là, que d'ailleurs elle aurait bu tout au long de la journée, qu'elle titubait, qu'elle parlait fort, etc., etc., en sachant qu'aucun des témoins n'a jamais attesté de ça. Et je vous parle des témoins qui n'étaient pas sur les bancs des accusés. Et l'autre amie de Cheryl, oui, souvenez-vous, celle qui était présente dans le bar, Marie Correa, qui, selon les sources que j'ai lues, celles qui ne la disent pas barmaid, mais qui la disent cliente, ces sources expliquent qu'elle, contrairement à Cheryl, avait l'habitude de se rendre plusieurs fois par semaine au Big Dan. Eh bien, elle aussi ne va pas se priver pour accuser Cheryl. Elle dira que ce soir-là, Cheryl paraissait bien heureuse, un peu trop heureuse même. Elle a dit qu'elle, je cite, « rebondissait autour de sa chaise », que ses pupilles étaient drôlement dilatées, qu'elle avait le regard vitreux, et qu'elle lui aurait même dit ne pas avoir eu de relation depuis plusieurs mois. Et elle, contrairement à Lisetta, elle n'a pas attendu longtemps avant de retourner sa veste. Sachez qu'elle l'a fait dès que la communauté de Belfort, la communauté portugaise, a été injustement raillée par le reste du pays. Et oui, Marie sera fière d'annoncer à la barre lors du procès avoir dit à Cheryl, lors de sa déposition à l'époque au commissariat, que son comportement était bizarre et pour toutes les raisons que je viens de vous citer. Et que Cheryl aurait elle-même acquiescé d'une certaine manière, puisque pour toute réponse, elle, je cite, n'a pas répondu mais a hoché la tête comme incrédule. Alors, j'imagine que oui, hein. Cheryl devait être forcément incrédule. Imaginez la terre entière qui vous tombe dessus, qui vous tourne le dos, l'air inquisiteur, même vos amis. Imaginez le désespoir de Cheryl. Et dites-vous que pendant le procès, c'est une lutte acharnée qui se passait devant le palais de justice. Il y avait d'un côté ceux qui protestaient contre Cheryl. On pouvait entendre des « elle aurait dû être chez elle à une heure pareille », d'autres encore réclamaient sa tête. Voilà, tout simplement, un peu extrême, mais oui. que ce serait là un problème en moins pour la société. La communauté et l'image qu'elle renvoie ayant beaucoup plus d'importance pour certains que les péripéties d'une femme légère qui traîne dans les bars la nuit. Et de l'autre côté, il y a ceux qui la soutiennent. Nombre de manifestants vont eux aussi descendre, faire le pied de grue devant le palais de justice, pancarte à la main. C'est là un soutien pour Cheryl, mais pas que. L'idée, c'est aussi de soutenir toutes les victimes pour que cesse ce type d'acte à l'encontre des femmes et pour qu'elles soient mieux protégées et ainsi encouragées à parler à l'avenir. Manifestants qui vont d'ailleurs vigoureusement montrer du doigt ce procès infâme qui n'aurait jamais dû avoir lieu, du moins dans de telles circonstances, et ils vont militer à corps et à cri pour que plus jamais un cirque pareil ne se reproduise. Et les étudiants qui circulaient en voiture, souvenez-vous, ils viendront eux aussi témoigner à la barre. Ils parleront quant à eux de l'état de détresse manifeste dans lequel ils ont trouvé Cheryl, le barman, puis l'autre client. Eux aussi, ils viendront et sachez que tous seront tantôt hués, tantôt acclamés. Et au milieu de tout ça, il y a la pauvre Cheryl. Il y aura des moments assez incroyables, comme l'arrivée au tribunal des bourreaux, tout sourire sous les acclamations de leurs partisans. Voilà, c'est une fierté. Et j'imagine que vous voulez maintenant connaître les sentences. Eh bien, sachez que les quatre accusés principaux seront jugés coupables et ils écoperont de peines allant de 6 ans à 12 ans de prison. Mais ces peines sont en réalité assez ridicules puisqu'avec le jeu des remises de peines, celui qui passera le plus de temps derrière les barreaux y restera 6 ans et demi. Et c'est moitié moins pour les autres. Quant aux deux autres, les témoins actifs, sans qui la police aurait pu intervenir, eh bien, eux seront jugés non coupables. Voilà, aux yeux de la justice, ils n'ont strictement rien à se reprocher. Il n'y a rien à redire, légalement du moins, sur leur attitude. Tout est OK. Et rebelote, à l'issue du procès, sachez qu'ils seront entre 7000 et 10 000 habitants de la région à descendre manifester dans la rue protester contre les condamnations des bourreaux. Condamnations qu'ils estiment bien trop sévères. Voilà donc l'invraisemblable histoire de Cheryl et de cet incroyable procès qui a encore une fois marqué les annales. Alors imaginez un peu le nombre de futures victimes qui ont dû être impactées par cette affaire, qui ont sûrement retenu comme leçon que si un jour, par malheur, il leur arrivait la même chose qu'à Cheryl, bien que la meilleure solution, c'est de se taire, de faire profil bas, d'oublier, d'aller de l'avant, comme on dit. C'est toujours mieux que de subir le traitement ignoble qui a été réservé à Cheryl. Alors, imaginez les conséquences que ça a pu avoir sur le moyen long terme. Et Cheryl, la vaillante Cheryl, déménagera aussitôt les procès terminés. Elle s'en ira avec sa famille. Sa sœur la suivra également. Vous pensez bien qu'elle aussi a été traînée dans la boue. Ce n'est pas pour rien que toutes les femmes se sont désolidarisées de Cheryl, pour ne pas être emportées, certes, dans la tourmente, pour ne pas être associées aussi à elle. Être associée à Cheryl, à cette époque, c'était comme tirer un trait sur sa vie sociale. Donc la famille s'en ira loin, très loin, à 23 heures de route de là, à Miami. Quoi bon rester ? De toute façon, Cheryl était devenue le bouc émissaire. Au mieux, elle était une victime, avec marqué sur le front, en gros et en gras, victime, et ce, à vie. Elle n'avait plus aucun avenir à New Bedford, cette ville pourtant si chère à son cœur, mais que dire des séquelles psychologiques qu'elle gardera ? Beaucoup auraient jeté l'éponge, et ne pas l'avoir fait aura de terribles conséquences psychologiques sur elle. Voilà, c'est le prix à payer pour avoir finalement ouvert la voie à d'autres futures victimes. Puisque, sachez-le, un tel cirque médiatique ne se reproduira plus. Face à un tel fiasco, désormais, les victimes seront jugées à huis clos. Les plus hautes instances du pays se rendront compte de la nécessité de correctement protéger les victimes. Mais c'est trop tard pour Cheryl. Elle est depuis longtemps tombée, disons, dans une intense mélancolie. Même si à Miami, elle ne s'est pas laissée abattre, elle avait repris ses études dans le but de devenir secrétaire, mais le mal était déjà fait. mal qu'elle tentera de soulager avec l'alcool, puisque oui, ironie du sort, elle qui était traitée d'alcoolo durant tout le procès et qui n'avait en réalité aucun problème de boisson, eh bien elle le deviendra. Elle luttera des années contre cette addiction, directement imputable à la violence des événements auxquels elle avait dû faire face. Sa vie ne sera plus qu'un difficile combat pour essayer de ne pas couler, pour essayer de se relever, de retrouver sa vie d'avant. 6 mois avant sa mort, elle avait même été admise dans un centre de désintoxication. Elle n'avait qu'un seul objectif, s'en sortir, mais elle sera incapable de se séparer de ce terrible pansement illusoire qu'est la boisson. Et le destin est parfois cruel, puisque un jour, le 14 décembre 1986, vers 16h46, alors qu'elle revenait d'un spectacle de Noël avec ses filles, elle perdra le contrôle de sa camionnette qui ira s'écraser sur le bas-côté de la route contre un poteau électrique en ciment. Elle ne survivra pas. Par chance, ses deux filles, si, l'une aura le bras cassé et l'autre des blessures superficielles. Mais les séquelles pour ces deux filles et leur père seront psychologiques. Et d'ailleurs, sachez qu'ils n'auront de cesse de défendre le nom et l'honneur de Cheryl. Et Cheryl était alcoolisée. Et c'est donc ce tragique accident qui va mettre un point final à son calvaire. Comme je vous le disais, c'est moins de 4 ans après les faits et moins de 3 ans après les procès. Elle n'était alors âgée que de 25 ans. Voilà, c'était l'histoire de Cheryl dont la vie a basculé pour un simple paquet de cigarettes. Sachez qu'un film sorti en 1988 sera inspiré de cette histoire. Un film du nom de L'Accusé. C'est Jodie Foster qui tient le rôle de la victime. D'ailleurs, elle obtiendra un Oscar grâce à lui, à l'âge de 26 ans. Et l'actrice qui joue le rôle de la procureure avouera avoir elle-même vécu ce qu'a vécu Cheryl. Elle a souligné l'importance de ce film, un témoignage douloureux, mais qui pourrait aider les victimes à l'avenir. C'est là une manière de contrebalancer l'impact qu'a eu sur la population ce qu'a vécu Cheryl. Et puis j'imagine que certains d'entre vous ont sûrement déjà vu l'incroyable reportage de Netflix. C'est l'épisode 5 de la série sur les procès ultra médiatisés, Trial by Media. Alors si ce n'est pas déjà fait et que vous avez la possibilité de le faire, eh bien je vous encourage vivement à aller le regarder cet épisode. J'avais lu l'histoire, mais la voir en image, c'est vraiment autre chose. Et comme on dit, il faut le voir pour le croire. Et comme nombre d'images sont protégées, vous ne les verrez que là-bas. Alors, foncez. Voilà, une fois n'est pas coutume, j'ai voulu traiter de cette affaire qui est, pour le coup, assez connue. Il est vrai qu'habituellement, avec ma sœur, on préfère parler d'affaires plus confidentielles. Mais j'avoue que celle-ci m'avait marquée au point que je savais qu'un jour, j'allais la traiter. Voilà, ce jour est arrivé. Et je vous connais bien, j'imagine que nombre d'entre vous, avec vos connaissances pointues en faits divers, vous qui, comme j'aime à dire, avez déjà tout vu et tout entendu, eh bien je pense que vous connaissiez peut-être déjà cette histoire, mais j'espère néanmoins que revoir ou réécouter cette affaire vous aura tout de même intéressé. Et pour contrebalancer la popularité de ce cas, je vous prépare une incroyable et passionnante histoire, encore jamais traitée sur la plateforme, quelle que soit la langue, quel que soit le pays. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivi. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire, les amis.